Laudetur Jesus Christus.
Où est passé le corps de Shiri Biba, cette otage israélienne décédée qui aurait dû être rendue à ses proches hier par le Hamas? La question bouleverse toute la population israélienne et menace l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La Syrie dévastée par la guerre, mais aussi par les sanctions occidentales, son économie est exsangue. Reportage dans ce journal. L'Allemagne aux urnes ce week-end, favori des sondages, le chef des chrétiens démocrates, Friedrich Merz, attend son heure. Nous verrons comment il est parvenu à imprimer sa marque dans le paysage politique allemand. La faim, principale menace pour la population soudanaise et conséquence de la guerre civile qui déchire le pays depuis bientôt 2 ans. Comment en est-on arrivé à une telle situation? C'est ce que nous essayerons de comprendre.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Voilà une semaine que le pape est hospitalisé pour une pneumonie. Le Saint-Père a passé une bonne nuit. Il a pris son petit déjeuner. Du point de vue de sa santé, ses conditions sont en légère amélioration. Un nouveau point sera donné en fin d'après-midi par le Vatican. Le pape qui peut compter sur la prière des fidèles, des chrétiens comme le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, mais aussi des musulmans comme le mufti de Tripoli qui a rencontré le cardinal Tchernet en visite au Liban cette semaine. Il demande à Dieu de guérir le pape complètement et qu'il retourne à ses occupations de manière à continuer de porter son message d'amour, de solidarité et de baume pour les blessures qui affligent les différentes communautés du monde. Plus de précisions sur notre site internet. Dans l'actualité internationale, stupeur en Israël après le retour hier de 4 corps d'otages remis par le Hamas, annoncés comme ceux de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, la mère et ses 2 enfants, ainsi que d'Oded Lefitz. Ce matin, le gouvernement israélien a annoncé que la dépouille de la femme ne correspond pas à celle de Shiri Bibas. C'est ce qu'ont révélé en tout cas les analyses menées à l'Institut médico-légal d'Abu Kabir de Tel Aviv, où nous retrouvons notre correspondante Julia Ganancia.
Où est Shiri Bibas? C'est la question que tous les Israéliens se posent ce vendredi matin. Dans la nuit, l'armée a annoncé que les corps d'Ariel et Kfir Bibas, les 2 enfants enlevés le 7 octobre de leur domicile à Niroz, avaient bien été identifiés. Et selon le rapport des médecins légistes, les 2 frères ont été assassinés en captivité en novembre 2023. Par ailleurs, le processus d'identification a révélé que le 3e corps remis par le Hamas ne correspond pas à celui de Shiri Bibas, leur mère, ni à aucun autre otage israélien. L'armée a déclaré « Il s'agit d'une violation grave de l'accord de la part du Hamas qui s'était engagé à rendre 4 otages décédés ». Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est insurgé, je cite, « La cruauté du Hamas est sans limite ». De son côté, l'organisation terroriste affirme que les restes de Shiri Bibas ont été mélangés à d'autres restes humains après avoir été tués par un bombardement israélien sur le lieu où elle était détenue. Demain, samedi, 6 otages vivants doivent revenir en Israël, comme le prévoit l'accord. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et le Hamas a bien confirmé demain la libération donc de ces 6 otages vivants. Quant à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il s'engage à ce que justice soit rendue pour ces sauvages ayant exécuté nos otages. Ce sont les termes utilisés dans un communiqué rendu public il y a quelques instants. Cette affaire dépasse les frontières d'Israël. Le chancelier allemand appelle ainsi le Hamas à rendre la dépouille de cet otage. Malgré le cessez-le-feu au sud Liban, cette fois l'armée israélienne poursuit ses opérations dans le pays. Cette nuit, elle a frappé des points de passage à la frontière syro-libanaise utilisée par le Hezbollah pour introduire, selon elle, des armes sur le territoire libanais. Une violation donc de l'accord de cessez-le-feu, affirme Israël. Direction la Syrie maintenant. Depuis plus de 10 ans, la Syrie est en effet confrontée à des sanctions économiques internationales qui ont isolé le pays sur le plan financier et commercial. En pleine reconstruction, après un conflit dévastateur, les Syriens continuent de vivre avec les conséquences de ces mesures, affectant leur quotidien et leurs perspectives d'avenir. Reportage à Damas de notre correspondant Mohamed Erami.
Dans l'espoir d'un jour meilleur, Moa Zamoui, la quarantaine passée, ouvre son restaurant populaire dans le quartier de Mezzeh à Damas, la capitale syrienne, espérant pouvoir vendre ses plats et repas prêts à emporter et rentrer chez lui avec quelques provisions et de l'argent. Moaz explique que cela fait plus de 10 ans qu'il vit ainsi, en raison de sanctions économiques imposées à la Syrie qui ont transformé le pays en un État économiquement isolé du reste du monde.
Auparavant, nous étions capables de vendre et d'acheter car la Syrie connaissait un grand afflux de visiteurs étrangers, notamment en provenance des pays du Golfe arabe et des pays européens. Ils avaient de l'argent à dépenser, y compris en dollars.
La situation de Moaz est similaire à celle de millions de Syriens qui ont été frappés par des sanctions économiques en raison des violations des droits de l'homme par le régime précédent. Selon le professeur d'économie à l'université de Damas, Ali El-Sayed, les principales sanctions incluent l'interdiction commerciale, l'embargo pétrolier, l'interdiction des transactions financières et les restrictions de voyage.
Le peuple syrien ne doit pas être puni pour les erreurs du régime précédent. Il a le droit de voir des résultats positifs. Et la nouvelle administration doit faire preuve d'une grande transparence envers la communauté internationale.
L'économie syrienne a connu un déclin majeur en 2020 après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sévères connues sous le nom de loi César, qui comprenaient un gel des actifs et l'interdiction des échanges commerciaux avec les pays du monde entier.
Damas Mohamed Erami. Les manœuvres diplomatiques en vue de trouver une issue à la guerre en Ukraine avec des négociations entre Kiev et Washington pour trouver un accord concernant les minerais stratégiques ukrainiens. C'est ce qu'a confirmé un haut responsable ukrainien à l'AFP, des négociations donc qui se poursuivent. Les discussions sont cependant âpres, une première proposition américaine ayant été rejetée par le gouvernement ukrainien. Les Allemands aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées. Après une campagne express, le scrutin devrait tourner la page du chancelier Olaf Scholz, arrivé au pouvoir en 2021, et voir le retour de la CDU à la tête du pays. Friedrich Merz, le leader du parti chrétien-démocrate, ancien rival d'Angela Merkel, est largement favori des sondages. Comment a-t-il réussi à imposer sa marque sur le paysage politique allemand? Analyse de Paul Meurys, secrétaire général du CERFA, le comité d'études franco-allemandes de l'IFRI à Paris.
Friedrich Merz, c'est surtout le recentrement à droite de la CDU après les années Merkel. Sa force principale, c'est d'être quelqu'un de ferme dans ses prises de position, ce qui peut, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, donner une ligne. Et puis surtout, Friedrich Merz est président de la CDU depuis 3 ans maintenant et il est en campagne depuis ces 3 dernières années. Il a su récupérer l'électorat de centre-droit qui était en partie chez les sociodémocrates et l'électorat libéral qui avait quitté la CDU pour voter en 2021 principalement pour les libéraux du FDP. Donc il est revenu à une base électorale. C'est vrai qu'aujourd'hui 30%, ça nous paraît beaucoup pour un parti démocratique, pro-européen, de centre droit en Europe. Mais si on regarde les chiffres, c'est en dessous, s'il fait ce score, c'est en dessous du score d'Angela Merkel en 2017, 33%, et à l'époque, on avait dit que c'était un échec. Donc, il faut aussi relativiser les choses. Il a beaucoup travaillé son électorat, il semble rassuré sur le plan économique, mais il n'arrive pas à réélargir la base de ce parti, qui était un parti de masse, qui faisait jusqu'à 40%, voire 45%, dans il y a une vingtaine ou une trentaine d'années.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. La conséquence de l'avancée des rebelles du M23, de leurs alliés rwandais au Kivu dans l'est de la RDC. 42 000 personnes ont fui au Burundi en 2 semaines. C'est ce qu'annonce le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La famine gagne du terrain au Soudan où se déroule la pire crise humanitaire de la planète. Une situation causée par la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide qui ravagent le pays depuis bientôt 2 ans. Comment en est-on arrivé à une telle situation? Les explications d'Augustine Passy.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé mercredi qu'il existe des preuves raisonnables de conditions de famine dans au moins 5 zones du Soudan, les camps de Zamzam, d'Abou Chouk et d'Al-Salam au nord d'Arfour, ainsi que 2 localités situées dans les monts Nouba. Un nombre record de 4,7 millions d'enfants de moins de 5 ans, de femmes enceintes et allaitantes et de jeunes filles souffrent de malnutrition aiguë, a ajouté le représentant de l'ONU. La famine a été déclarée dès le mois d'août dans le camp de Zamzam qui accueille le plus grand nombre de déplacés du pays. Ce camp a été bombardé la semaine dernière par les forces de soutien rapide faisant au moins 31 morts et 81 blessés selon le directeur général de la santé du Nord Darfour. Beaucoup de déplacés mourront dans les prochains jours à cause du manque d'eau et d'accès à la nourriture à la suite de la destruction quasi totale du marché, prévient une travailleuse humanitaire basée dans la ville voisine de Tawila. En attendant, les survivants sont rendus à se nourrir de coques d'arachide mélangées à de l'huile. Malgré les appels au cessez-le-feu durant le mois sacré du Ramadan, cette perspective semble peu probable, alors que l'armée et les paramilitaires s'apprêtent à annoncer chacun leur propre gouvernement. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.